2025. Merci à vous de vous réveiller en écoutant RTL. Votre fidélité nous honore. Il est 7h.
RTL Matin,
Thomas Soto et Amandine Bégaud.
Et le journal, c'est avec vous, William Galibert. Bonjour William.
Bonjour à tous.
Faut-il décapiter le régime iranien ? Israël pousse toujours pour éliminer l'ayatollah Khamenei.
Mais pour l'instant, les États-Unis et la France s'y opposent toujours. On va vous expliquer pourquoi. Et puis ça a été une nouvelle nuit d'alerte dans le ciel israélien. Nous serons également sur place. Dans les 10 minutes qui viennent, on sera là pour vous raconter ce qui peut sortir de ce fameux conclave sur les retraites. On vous présentera aussi un patron du Morbihan qui a trouvé un sacré truc en plus pour recruter. Il construit les maisons de ses futurs salariés. Et puis l'anniversaire d'une légende, Eddy Merckx, 80 ans, il a répondu à RTL et il n'a pas renoncé au vélo.
La vérité est-elle toujours convaincante ? C'était un des sujets du bac philo hier. La vérité est-elle toujours convaincante en politique ? Ce sera le sujet sur lequel planchera Étienne Jernel, l'édito d'RTL Matin. Ce sera à 7h15.
RTL Matin.
Téhéran avait annoncé des frappes sans interruption jusqu'à l'aube contre Israël. C'est effectivement ce qu'il s'est passé.
Et c'est sur place, à Tel Aviv, c'est Betsabeh Salem, la correspondante de RTL, qui est en ligne avec nous. Le jour s'est levé, Betsabeh, après une nuit au rythme des alertes et des attaques.
Oui, plusieurs salves de missiles depuis hier soir. Ici à Tel Aviv, les sirènes ont résonné à deux reprises en pleine nuit. Vous savez, ces derniers jours, la défense civile a tenté d'alerter les civils en amont des sirènes avec des messages stridents sur les téléphones portables, surtout la nuit, hein, pour que les gens aient le temps de se réfugier dans les abris. Mais cette nuit, on a eu ici entre 1 minute 30 et 3 minutes pour courir vers un espace protégé. Et je peux vous dire que c'est très court quand vous dormez. D'ailleurs, dans l'abri où je me trouvais, les gens sont arrivés au tout dernier moment, essoufflés. Alors on a pu entendre des explosions en loin, mais ces attaques n'ont fait ni victimes ni dégâts matériels. D'ailleurs, les attaques de cette nuit étaient bien moins agressives que les 4 derniers jours, avec à peine une dizaine de missiles balistiques tirés à chaque fois. Une nouvelle stratégie que les experts ici ne savent pas expliquer avec certitude. L'Iran pourrait vouloir jouer avec les nerfs des Israéliens en réduisant le nombre de missiles tirés, mais en accélérant les attaques, ou le stock de missiles de la République islamique pourrait avoir été sérieusement endommagé par l'armée israélienne.
Betsabeh Salem en Israël pour RTL, merci.
Israël est en train de changer la face du Moyen-Orient. Ce sont les mots utilisés par Benjamin Netanyahou il y a quelques heures. C'était lors d'une conférence de presse à la télé.
Et le Premier ministre israélien répète qu'il veut éliminer l'ayatollah, le visage du régime iranien.
Ça ne va pas faire d'escalade dans le conflit, cela va résoudre le conflit. Ça fait près d'un demi-siècle qu'on a eu ce conflit à cause de ce régime qui a terrorisé tout le monde au Moyen-Orient, qui a bombardé l'Irak, a détruit les sites pétroliers en Arabie Saoudite et répandu le terrorisme. La guerre éternelle est ce que veut l'Iran et qui nous amène au bord de la guerre nucléaire. Et ce que fait Israël, c'est empêcher cela en mettant fin à cette agression.
Le Premier ministre israélien, il y a quelques heures, d'où cette question posée par le Dauphiné en une, le régime iranien peut-il tomber ?
On sait que les États-Unis avaient déjà mis leur veto pour empêcher cette élimination de l'ayatollah et Donald Trump, qui vient de quitter le sommet du G7 plus tôt que prévu, n'a pas changé d'avis. Bénédicte Tassar, vous êtes notre envoyé spécial au Canada. Quels sont les arguments américains ?
Eh bien d'abord, ne pas déstabiliser la région, penser au cours du pétrole, c'est important. Le meurtre du guide suprême aurait aggravé les tensions, estime Washington. Et puis les Iraniens n'ont pas tué d'Américains, donc fin de la conversation pour Donald Trump. Un avis partagé cette nuit ici au G7 par le président français. Quand on pose la question à Emmanuel Macron sur une éventuelle élimination du régime iranien, comme le souhaite Netanyahou, eh bien, il rétorque de suite, écoutez.
Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes, et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques.
Trump voudrait donc négocier avec l'Iran. Il rentre en ce moment à Washington pour assister à un conseil de défense. Mais avant, il a signé un communiqué commun avec les 6 autres puissants de ce monde, ici au G7 de Kananaskis, un texte appelant à une désescalade régionale.
RTL depuis le G7 avec Bénédicte Tassar dans l'Ouest canadien. Autre conflit, autre victime, toujours 14 morts cette nuit à Kiev après des frappes russes et le bilan est encore très provisoire.
Et il est 7h04 sur RTL, la fin de 4 mois de conclave sur les retraites et une question ce matin à quelques heures de la conclusion, est-on vraiment plus avancé qu'au mois de janvier ?
Alors François Bayrou a gagné du du temps. Il a évité une censure prématurée de son gouvernement. Mais sur le fond, sur les retraites, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Où en est-on, Mathilde Piquet ?
4 mois de discussion pour du sur place. Un retour en arrière sur les 64 ans. Le patronat a toujours dit non. Éric Chevet de la CPME.
C'est beaucoup trop cher. Les prévisions à 2030 sont négatives, à hauteur de 6 milliards d'euros. Donc évidemment qu'on ne peut pas bouger sur l'âge.
Alors les syndicats ont dû mettre de l'eau dans leur vin, se concentrer sur des enjeux annexes comme la pénibilité. Yvan Ricordo de la CFDT.
On est encore très loin d'un accord alors qu'il reste qu'une séance de négociation. Tout l'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte de revenir sur les 64 ans pour les salariés qui ont une carrière très pénible.
Une consultation médicale à 59 ans et un nouveau mode de calcul des retraites des femmes pourraient voir le jour. Insuffisant pour Michel Boga de Force Ouvrière, il a claqué la porte du conclave dès la première semaine.
Moi, je ne jette pas la pierre. D'autres organisations qui sont fait enfermer dans un piège qui leur a été tendu par le gouvernement. Ce conclave a été fabriqué pour nous dire, voyez, il n'y a pas d'autre solution, ça sera 64.
Et hasard du calendrier, ce conclave aura démontré qu'il est plus facile de trouver un pape que de réformer les retraites.
Mathilde Piquet et Matignon a aussi confirmé avoir proposé aux syndicats et au patronat l'idée d'une prime pour les salariés seniors qui décideraient de rester au travail.
On n'en sait pas beaucoup plus sur les contours de cette prime. Peut-être qu'elle aura des informations. Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, elle nous dira ce qu'elle en pense et elle sera avec nous dans ce studio tout à l'heure à 7h40 sur RTL.
Les obsèques de Mélanie, la surveillante tuée par un collégien la semaine passée en Haute-Marne. Une cérémonie va avoir lieu ce matin dans la plus stricte intimité à Sarcé, c'est la commune où elle résidait. Elle va recevoir la Légion d'honneur à titre posthume.
RTL, il est 7h06 et alors là, on va faire la rencontre d'un patron qui vraiment, pour le coup, utilise les grands moyens pour convaincre ses salariés de venir travailler avec lui.
Dominique Lamballe est un fabricant de fenêtres. Il va ouvrir une usine dans le Morbihan et pour faire la différence face aux pénuries de main-d'œuvre, pour attirer ses futurs salariés, il n'hésite pas à leur faire construire des maisons, Nicolas Bobby.
Près de la forêt de Brocéliande, celle de Merlin l'Enchanteur, une nouvelle usine de fenêtres en aluminium va naître dans 2 ans, créant une centaine d'emplois. Sur un terrain de 10 900 m², Dominique Lamballe, le président de Fenêtrea, est devenu bâtisseur.
Si on lance une campagne de recrutement pour une nouvelle usine, on n'y arrivera pas si on n'a pas l'atout logement dans notre jeu, d'où le projet de construction de 41 maisons à Baignan. C'est un petit lotissement, chaque maison va être différente de celle du voisin. Dans le classique de l'habitat breton, toiture ardoise, charpente bois, avec un garage, 2 places de parking, cuisine équipée. On a lancé 12 maisons, qu'on en propose 4 à la vente et 8 à la location.
La commune de Bignon, située à 35 km de Rennes où il manque 200 logements, a vendu le terrain viabilisé à l'entreprise, Madame le maire Sylvie Ourmand.
Forcément, 41 familles qui s'installent, ce sont les commerces qui fonctionnent, les écoles qui se remplissent, donc c'est une excellente nouvelle pour notre petite commune de 2000 habitants.
Les maisons seront louées aux salariés 700 euros, vendues 250 000, c'est le prix du marché.
Nicolas Bobby pour RTL.
Dans l'actualité également, ce nouveau décès lié aux airbags défectueux en France.
Ça s'est passé à Reims la semaine passée, mais la justice vient de le confirmer. Une mère de famille âgée d'une 40aine d'années a perdu la vie et une adolescente de 14 ans a également été blessée. Elle circulait à bord d'une Citroën C3. C'est le 2e décès confirmé en métropole lié à ces airbags du fabricant japonais Takata.
À Mulhouse, la compagnie de transport public, cette fois, teste un système pour essayer de réduire la pollution liée aux plaquettes de frein.
Oui, des particules fines qui se relâchent dans l'atmosphère à chaque freinage, particulièrement pour des véhicules aussi massifs que les bus, Yannick Collant.
Oui, dans l'atelier des bus mulhousiens, les mécaniciens s'activent pour installer ce tout nouveau système qui capture les particules fines émises par les plaquettes de frein. Elles sont nocives pour la santé et jusque-là, on ne savait pas comment les récupérer. Claudio Puzzoli est le directeur technique en charge de la maintenance des bus chez Solaire.
C'est les plaquettes de frein qui se désagrègent au fur et à mesure des freinages. Et donc, ce sont de fines particules qui vont dans l'atmosphère, qui sont respirées par les gens qui sont autour. Et on voyait très bien, quand on démontait les roues pour remplacer les plaquettes, il y avait énormément de poussière de frein. Très problématique aussi pour les mécaniciens. Et ce filtre donc va récupérer 80% des poussières.
L'idée toute simple consiste à diriger le nuage de particules fines émises au freinage vers des mini-aspirateurs installés au niveau des 4 roues. Alain Moubarak, le directeur général de Solaire.
Les plaquettes de frein ont un système de rainure qui permet de canaliser les particules fines et ensuite il y a un système d'aspiration qui vient envoyer les particules fines dans un filtre et donc ça participe à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce système pourrait se décliner aussi sur les tramways ou tram-train dans les agglomérations.
Et le jour où les 134 bus mulhousiens seront équipés, cela permettra de récupérer une tonne de particules fines chaque année.
Le reportage de Yannick Collant. Le prix moyen de l'assurance auto en France pour cette année va être de 722 €. C'est une hausse de presque 7% et les jeunes conducteurs vont même subir une hausse moyenne de 14%. Tous les détails dans le journal de 7h30 sur RTL.
Nous sommes le 17 juin donc et c'est l'anniversaire d'une légende, du cyclisme. Eddy Merckx fête aujourd'hui ses 80 ans.
Et on va prendre quelques nouvelles du cannibale quintuple vainqueur du Tour. Il a chuté à vélo l'an passé, il a dû subir plusieurs opérations. Alors Eddy, comment allez-vous ?
Ça va, ça pourrait être encore mieux parce que j'ai quand même pas mal de problèmes avec une double opération de hanche, de prothèse. J'ai quand même été 4 fois endormi et je fais un petit peu de vélo, mais je peux pas non plus croire que j'ai 20 ans et plein n'importe quoi. Ça fait plus de 50 ans que j'ai arrêté de courir à vélo et que les gens pensent encore à moi et qui les encore mon nom. C'est quelque chose d'incroyable. Ça me fait énormément plaisir. C'est pas toujours facile, mais je suis quand même très heureux que les gens ne m'aient pas oublié.
L'autre, monsieur Eddy Merckx avec Nicolas Georgerot pour RTL. Hein. Résultat de basket, ou plutôt l'annonce d'un match. Et ce soir, c'est la deuxième manche de la finale du championnat de France. Paris et Monaco se retrouvent à 20h30. Paris mène 1-0. C'est le premier à 3 victoires qui sera titré.
Avant cela, il y aura les courses. Elles ont lieu à Nantes aujourd'hui. Départ prévu à 18h05.
Et les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille le 5, le 3, le 16, le 2, le 10, le 12 et le 7. 5, 3, 16, 2, 10, 12 et 7. L'outsider de RTL, c'est le numéro 10, Septimus.
Et merci William Galibert. On vous retrouve tout à l'heure à 8h35. Le Monde en Marche et vous nous emmenez ce matin en coulisses.
En coulisses de Matignon. François Bayrou est-il un roi fainéant à Matignon? Je vais vous faire une petite leçon de politique sauce béarnaise à 8h35.
Ben on ne rattrape pas ça. Merci beaucoup pour l'heure. Il est 7h11 à l'écoute d'RTL.
RTL événement.
Et au lendemain de l'hommage national qui a été rendu hier aux deux jeunes pompiers tués la semaine dernière dans l'incendie de Laon dans l'Aisne, on a choisi, et c'est notre événement ce matin sur RTL, de mettre l'accent sur cette crise des vocations qui touche les pompiers volontaires.
Bonjour Arthur Pereira.
Bonjour à tous.
Et ils sont aujourd'hui 200 000 pompiers volontaires en France. Ils étaient 50 000 de plus au début du siècle, il y a 25 ans. Clairement Arthur, la mission attire de moins en moins et vous avez d'ailleurs rencontré un ancien pompier volontaire.
Oui, il s'agit de Thibaut. Il a 25 ans. Dans la vie, il est fonctionnaire à côté de son métier, pompier volontaire dans une caserne dans le Rhône. Pendant 8 ans, il enfile son uniforme bleu marine aux bandes rouges 10 jours par mois. Aujourd'hui, il a jeté l'éponge à cause d'une cadence infernale.
Dans un premier temps, on nous demande énormément de disponibilité. Par mois, on a une garde par semaine obligatoire. En fait, le problème, c'est qu'au plus on donnait de la disponibilité, au plus on nous demandait d'être disponible. Et malheureusement, dès qu'il y avait un problème, qu'on avait des soucis familiaux, ou qu'on n'était plus disponible parce qu'on avait tel et tel événement, on nous demandait de rendre des comptes.
Et le problème, c'est qu'à l'époque, avec son grade de sergent, il touche une faible rémunération.
Tout ce qui est sapeur et caporaux, où ils ont une certaine rémunération, allant de 7 € à 8 € de l'heure. Après, il y a les sous-officiers, où il y a les sergents, sergent-chef, adjudant-chef, où pareil, ils ont une autre rémunération pouvant aller de 8 à 10 €. Si on ne faisait aucune intervention, on avait 0 €.
Ce qui veut dire que lorsqu'il est d'astreinte chez lui et qu'il n'est pas déclenché, il n'est pas payé. Par ailleurs, il a les mêmes missions qu'un pompier professionnel sans avoir les mêmes avantages. Dans son centre de secours, ils sont 70 volontaires contre 0 professionnel.
Pour moi, il y a un problème de management. On ne peut pas diriger un SDIS comme ça en un claquement de doigts. C'est très compliqué. Les SDIS sont complètement sous l'eau et ils savent plus ce qu'ils font parce qu'il y a un manque de personnel également, mais ils ne l'admettent pas.
Arthur, on entend très bien le ras-le-bol de cet ancien sapeur-pompier volontaire et ce n'est pas le seul à raccrocher, hein.
Oui, puisque ce n'est pas la seule caserne qui fonctionne qu'avec des volontaires. C'est le cas au centre de secours de Milly-la-Forêt dans le sud du département de l'Essonne.
Il y a 20 ans, on était 70 à l'effectif.
Aujourd'hui, on est 40.
Sur la table en bois, les plannings du lieutenant Stéphane Enfry, le chef de centre.
La difficulté, c'est de recruter des jeunes et des jeunes qui restent, puisque bien souvent, on sait très bien qu'une fois que les études sont faites, ils sont amenés à partir. Ce qui fait que l'effectif, il fluctue. Un jour, on est bien, et puis 3-4 ans après, ça baisse, le temps de recruter, retrouver du monde, reformer les gens, et c'est là toute la difficulté. Et si j'ai personne à mettre dans le centre de secours, j'aurai un minimum de personnel pour faire partir un minimum un engin pour engager du secours à personne, et on sera renforcé bien souvent par les centres de secours aux alentours.
Alors, pour être plus attractif, les pompiers ont lancé l'opération Séduction. Le lieutenant Frédéric Moireau.
Début septembre, on essaye lors des forums des associations de tenir un stand et puis de pouvoir renseigner au maximum les jeunes pour la section d'IGSP, les parents, pour leur expliquer tout ce qui est lié à l'activité de sapeurs-pompiers volontaires.
Et pour recruter de nouveaux pompiers, la fédération veut développer des conventions avec des entreprises pour libérer du temps aux salariés qui veulent rejoindre les rangs des volontaires.
Merci beaucoup Arthur Perret, on l'évoquait au début de cet événement. Le dernier adieu à Tanguy et Maxime fait la une de l'Union. Tanguy Mauzin et Maxime Prudhomme, 22 et 23 ans. Les deux pompiers tragiquement décédés dans l'incendie de Laon début de semaine dernière. C'est comme si une partie de ma famille était partie avec eux, raconte une fille d'un autre sapeur-pompier volontaire. C'est donc à lire dans l'Union. À suivre sur RTL, l'édito d'RTL Matin. Avec vous Étienne Jarnel. Bonjour Étienne.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Et alors ce matin vous êtes très concentré parce que vous avez décidé de reprendre sujet du bac philo d'hier. La vérité est-elle toujours convaincante? Alors en politique, ça donne quoi?
Mais non, évidemment que non. Je vais vous expliquer pourquoi.
Éloge du mensonge.
Et juste après, ce sera les secrets de la conso avec Olivier Dauvert. Bonjour Olivier.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Et ce matin, des chiffres fous, les chiffres fous d'Amazon.
Ah oui, et je vous en donne un, tiens, pour démarrer. On est 41 millions de Français à y faire un tour au moins une fois par mois sur Amazon. 41 millions de Français.
41 sur 67 millions, c'est on énorme. Le rappelle. À tout de suite sur RTL, il est 7h16.
RTL Matin, Thomas Soto et Amandine Bégaud. De nos jours, les ados peuvent télécharger toutes sortes d'applications depuis les App Store, y compris celles qui ne sont pas adaptées à leur âge. Donner aux parents plus de contrôle sur les téléchargements d'applications peut aider à assurer la sécurité des ados en ligne. C'est pourquoi Instagram demande une réglementation européenne exigeant la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store où les ados téléchargent les applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur instagram.com/accordparental.
Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau.
Oh non.
Vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant 2 semaines seulement sur Cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
Cuisine Ixina présente son offre. Jusqu'à 6 électro offerts.
Ah super.
Oui, enfin c'est maintenant ou jamais.
Eh ben je pars là tout de suite.
T'es en pyjama chérie.
Bah tu veux que j'aille nu?
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur Ixina.fr. Ixina.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir:
je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim.
Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Ça ira, chez Citroën nous on ira, nous ce qu'on veut c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira, des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Pensez à covoiturer.
RTL Matin.
Bientôt 7h18 sur RTL. L'édito d'RTL Matin avec vous, Étienne Jarnel. Les candidats au bac philo ont donc eu 4 heures. Vous, ce matin, Étienne, vous avez 3 minutes pour disserter sur un des sujets tombés hier. La vérité est-elle toujours convaincante? Enfin, pour vous, ça donne La vérité est-elle toujours convaincante en politique ?
Et la réponse est non, absolument pas, Amandine. Mark Twain, vous savez, disait qu'un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Et en politique, cette conviction, elle est très ancrée, très intégrée. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Même si les deux derniers premiers ministres, Michel Barnier et François Bayrou, vous vous souvenez, ont martelé le mot « vérité » dans leur discours de politique générale, on sent quand même une forme de scepticisme sur le fait que la vérité paye. Et on cite souvent, d'ailleurs, pour illustrer ce fait, les infortunes électorales de Raymond Barre ou de Michel Rocard, deux élèves très compétents mais peu doués en matière de faribole et qui n'ont jamais été président de la République.
Bon, c'est un peu désespérant quand même votre tableau.
Bien, pas tant que ça. On oublie souvent que De Gaulle était aussi capable d'entourloupe de haut vol. La plus connue étant bien sûr celle de 1958, lorsqu'il servait aux partisans de l'Algérie française comme à ses adversaires, le discours qu'il voulait entendre, un double jeu total, mais à la fin pour servir une vérité, l'Algérie devait devenir indépendante, et donc c'était pour notre bien. On pourrait y voir l'application d'une formule de Machiavel, qui sert souvent de référence aux réalistes. La formule est la suivante, la vérité effective des choses. En clair, on ne vit pas dans un monde idéal, et il faut s'adapter, mais le vrai sujet aujourd'hui, en politique, c'est peut-être encore plus grave que la question du pouvoir de conviction de la vérité, c'est le pouvoir de conviction du mensonge, ce qu'on appelle le populisme.
Ah bon, le populisme, pour vous, c'est du mensonge ?
Oui, et je vous ai d'ailleurs apporté le meilleur livre de philo sur le sujet, ça date de 2016, ça s'appelle « Réflexe primitif ». C'est signé Peter Sloterdijk, qui est peut-être, sans doute, le philosophe le plus stimulant de notre époque. Sloterdijk décortique l'histoire du populisme et de la post-vérité depuis l'Antiquité, et je vous recommande en particulier le premier chapitre qui était intitulé « Ceux qui veulent être trompés », car tout cela repose, ce qu'explique Sloterdijk, sur, je le cite, « un pacte demi-conscient à demi-inconscient entre les menteurs et ceux que l'on abuse. » Et il cite ce glorieux ancêtre des populistes, Trump et autres d'aujourd'hui, un dénommé Quintus Mucius Caevola, qui fut un juriste romain à l'orée du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui a eu cette formule « Si mundus vult decipi, decipiatur », pardon pour mon accent romain, « Si le monde veut être trompé, qu'il le soit. » La conclusion de cette micro-dissertation pour laquelle je demande l'indulgence du jury s'adresse aux bacheliers qui deviennent aussi des électeurs en général. Pour ne pas être trompé, il faut déjà commencer par ne pas le vouloir.
Et le jury, c'est vous, mesdames, messieurs, qui nous êtes 64-900 avec le mot-clé matin pour nous dire ce que vous avez pensé de cette copie de Gernel ce matin. Merci beaucoup à vous, Étienne. RTL, il est 7h21. Les secrets de la conso avec vous, Olivier Dauvert. Ça fait un quart de siècle maintenant, déjà, qu'Amazon s'est installé en France et le bilan du géant américain est hallucinant, Olivier, puisque non seulement Amazon est devenu le premier e-vendeur de France, mais au passage, il a tué tous ses concurrents, il a mangé le marché.
Oui, bon, évidemment, tout le monde connaît Amazon, et presque tout le monde est client d'Amazon. Ça, c'est le premier enseignement d'une étude menée par l'IFOP. 91% des Français, vous entendez bien, quasiment tous les Français, ont déjà acheté au moins une fois sur Amazon. Mmh. Et parmi ces Français-là, 29% le sont même régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par mois. En réalité, quand vous additionnez comme ça tous les chiffres d'Amazon, ils sont dingues. C'est aussi, je vous le disais il y a quelques minutes, le premier site internet visité par les Français, même si on n'y achète pas à chaque fois, c'est vrai. Eh bien, on est quand même 41 millions à y faire au moins un tour une fois par mois parce que c'est devenu une sorte de moteur de recherche commerciale. On y va pour se renseigner, pour se documenter, pour regarder ce qui est proposé. Pas forcément pour acheter dans l'instant, mais ça participe à installer Amazon dans notre quotidien. Alors, même si le groupe américain ne publie pas officiellement le montant de ses ventes en France, on estime qu'on y a dépensé, nous les Français, l'année dernière, 25 milliards d'euros. Oh. Dit autrement, ça veut dire que Amazon écrase la concurrence, puisque ça représente plus de 35% de parts de marché. C'est énorme.
Mais qu'est devenu notre côté Astérix, les irréductibles Gaulois qui résistent ? Non, on a tout lâché là sur Amazon.
Ah oui, presque tout lâché. Alors en fait, on a eu cet Astérix, il s'appelle, puisqu'il existe toujours, Cdiscount, vous le connaissez peut-être. Alors ça a été créé par trois pionniers français du web, les frères Charles. On était en 1998, c'était avant même qu'Amazon arrive en France, hein, puisque ça ne s'est passé qu'en 2000. Et donc, pendant longtemps, la France a même été l'un des rares pays au monde où Amazon était challengé. Vous voyez que notre côté gaulois, on l'a eu. Mais aujourd'hui, si Cdiscount existe encore, le site d'ailleurs appartient à Casino, mais Cdiscount est 10 fois plus petit qu'Amazon, parce qu'Amazon est tout simplement un véritable rouleau compresseur.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de plus ? Qu'est-ce qu'il a de différent ? Comment vous expliquez, Olivier, ce succès d'Amazon ?
C'est triste, mais c'est assez simple à comprendre parce que Amazon, il est tout simplement meilleur que ses concurrents sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le choix, sur les prix, sur les services. Alors, sur le service, c'est Amazon qui a rendu quasiment banale la livraison dès le lendemain. C'est devenu un standard d'ailleurs aujourd'hui. Sur le choix, Amazon propose plus de produits que n'importe quel site grâce à sa puissance mondiale. Les estimations prudentes tablent sur plus de 300 millions d'articles différents. Et pour les prix, ben, ils sont souvent plus bas. Parce que figurez-vous qu'Amazon, ça aussi, c'est son secret, ne gagne pas sa vie sur la vente de produits, mais sur la vente de publicités et de services informatiques aux entreprises. Et c'est pour ça qu'on évoque parfois une forme de dumping et de compétition déséquilibrée. L'argent qu'Amazon gagne sur la publicité et sur les services aux entreprises permet de financer les toutes petites marges sur les produits que nous, consommateurs, achetons. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le e-commerce est un marché mondial et que seuls les sites mondiaux, Amazon en est un évidemment, peuvent vraiment s'imposer. Et malheureusement, pas le petit Astérix français.
Merci beaucoup, Olivier Dauvert.
Et tout de suite, vos grosses têtes sur RTL et une rencontre ce matin entre deux sociétaires, Christine Bravo et Fabrizio Puccella.
Vous connaissez Christine Bravo, professeur?
Ah oui, de réputation et de l'écouter dans le poste.
Ah, vous avez un petit accent, vous.
Mais vous ne connaissiez pas le professeur Puccella, Christine?
Pas du tout. Quand je suis rentré dans le studio, c'est vrai que j'ai cru que soit c'était un patron. Soit j'ai cru
que. C'est vrai qu'il a une tête de patron.
Il a une tête de patron. Soit je me suis dit, il y a quelqu'un qui est mort, parce qu'il a aussi une tête de croque-mort. Un peu. Enfin, il a un style qui est très différent des vôtres.
Oui.
Oui, il est élégant, quoi.
Il est élégant. Les grosses têtes qui seront de retour tout à l'heure à 15h30, comme tous les jours sur RTL, avec notamment cet après-midi Christine Bravo ou encore Angoune.
Il est 7h25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal. Vouloir changer le régime en Iran par la force serait une erreur stratégique. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron après une cinquième nuit de frappe. Mise en garde faite depuis le sommet du G7 au Canada. Sommet que Donald Trump a quitté un jour plus tôt que prévu. Mais rien à voir avec un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, précise-t-il à l'instant. La suite est fin, a priori, aujourd'hui du conclave sur les retraites. Hier, François Bayrou a proposé une prime pour les salariés seniors qui décident de rester au travail. Bonne idée ou pas, on pose la question à Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui sera l'invitée d'RTL Matin dans un petit quart d'heure à 7h40. Les obsèques de Mélanie, cette surveillante tuée par un collégien la semaine dernière en Haute-Marne. Mélanie, qui devrait être décorée de la Légion d'honneur à titre posthume, c'est ce qu'a indiqué hier la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Dans le journal de 7h30, on évoquera aussi la flambée des prix des assurances. Écoutez bien ces chiffres. Plus 12,8% pour l'assurance habitation, plus 6,8% pour l'assurance auto. Certains jeunes renoncent désormais, et vous l'entendrez, à passer leur permis de conduire. Côté météo, Louis Baudin, le thermomètre monte encore d'un cran.
Oui, cet après-midi, ça va chauffer encore un peu plus qu'hier, tout ça avec du grand soleil.
À tout de suite.
Vous pouvez joindre RTL par SMS au 64 900.
35 centimes par SMS.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous êtes fort en maths?
Ça va.
Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier dé de terme matin, voire conditions sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Vous avez un nouveau message.
Ah, le patron, ils nous ont encore pris de court chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl Plus. On peut dire qu'elles en jettent, ces courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl Plus. Là, je suis vert. On est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-et-moins-cher.fr. Catégorie 1, origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Ce mardi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
RTL Matin.
La météo, monsieur Baudin. Bonjour à toute l'équipe, nous écrit un de nos auditeurs. La météo est très agréable, certes, mais Louis Baudin peut-il rappeler que la pluie est nécessaire pour les agriculteurs ? Bonne journée.
Oui, il a raison. Je peux le rappeler, effectivement, les agriculteurs ont besoin de pluie, mais la bonne nouvelle, c'est que nos nappes phréatiques sont à un très bon niveau quasiment partout. C'est que même dans les Pyrénées-Orientales, dans le Languedoc, on a eu quelques pluies au printemps. Alors, ça n'a pas rempli totalement les nappes phréatiques, mais ça a apporté de la pluie à la végétation en surface, et c'était aussi une bonne nouvelle. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on peut
se là-dessus, réjouir. On est à peu près tranquille.
Voilà,
pour l'instant.
Quand même, pour l'instant, exactement, hein, ça ne préjuge rien de l'été, mais en tout cas, pour l'instant, avec ces nappes phréatiques à des bons niveaux, on peut effectivement se réjouir de ce soleil qui sera donc encore là aujourd'hui, hein, partout, encore plus facilement qu'hier, puisque on n'a même pas les nuages ce matin dans les régions de l'Est. En revanche, on a quelques brumes brouillards dans le Nord-Ouest, hein, il y en a à Saint-Brieuc, à Dinard, à Caen par exemple, à Deauville ou encore à Cherbourg, mais tout ça va vite disparaître. Et cet après-midi, comme hier, ça sera du grand soleil partout, juste quelques développements nuageux au nord de la Loire, mais sans aucune conséquence. Puis il restera un tout petit risque d'averse dans les Alpes du Sud en toute fin de journée et seulement en montagne. Côté température, on a déjà 23 degrés à Nice ou encore à 7. 7 degrés à Guéret, 8 à Romorantin, 9 au Puy. Donc là, on respire. Et cet après-midi, chaleur pour tout le monde à 21 à 24 degrés près de la Manche, mais 27 à 31 degrés dans toutes les autres régions. On ira même jusqu'à 33 degrés à Nîmes et 34 à Perpignan.
Merci Louis. On souhaite bon courage à tous les agriculteurs et à tous ceux qui ont déjà commencé à bosser depuis plusieurs heures à l'heure qu'il est.
Et il est bientôt 7h30.
Soto, Amandine Bégaud,
RTL Matin jusqu'à 10h.
Et l'info avec vous Isabelle Choquet, bonjour Isabelle.
Bonjour Amandine, bonjour à tous. Et on s'arrête ce matin sur les tarifs des assurances. On ne peut pas s'en passer, mais ça nous coûte de plus en plus cher. Pour la voiture par exemple, selon le baromètre assureland.com, le prix moyen est désormais de 722 euros. C'est une hausse de 6,8% par rapport à l'an dernier. Et c'est encore pire pour les jeunes, les moins de 25 ans paient près de 1600 euros de primes. C'est 14% d'augmentation. De quoi décourager les nouveaux conducteurs. Reportage RTL de Christian Ponvert à Tours.
Hugo vient d'entrer dans la vie active, il a un petit salaire et fait ce constat.
Aujourd'hui, c'est un luxe d'avoir une voiture pour la plupart des jeunes entre 20 et 30 ans. En tout cas, pour une certaine catégorie de jeunes, c'est un luxe.
Être jeune conducteur coûte très cher à l'année.
Entre 1000 et 1500 euros sur des véhicules qui sont, somme toute, classiques, quoi, pas sur des gros bolides. Donc, c'est super cher pour la plupart des jeunes de mon âge.
C'est un vrai coût dont on ne peut pas se passer.
À moins de, des fois, entre guillemets, truander, c'est-à-dire d'être sous l'assurance de nos parents, de ne pas forcément déclarer, auquel cas on se met en danger, on met en danger les autres.
Lucie a son permis depuis 8 ans, mais elle a pris une décision radicale.
Je n'ai jamais acheté de voiture et c'est lié au coût de la voiture elle-même, le prix de l'assurance, les frais d'entretien, un peu un total qui fait qu'en fait je préfère m'en passer et j'utilise essentiellement le train ou le BlaBlaCar, quoi.
Alistair est encore étudiant, à 19 ans, il n'a même pas envie de passer le permis.
Parce que je trouve tout simplement le prix de l'assurance beaucoup trop cher. Pour l'instant, je suis très bien en bus et je compte continuer comme ça. Puis pour les grands déplacements, les BlaBlaCar, les covoiturages.
À l'issue de ses études, il espère trouver un emploi qui ne nécessite pas d'avoir une voiture.
Et notez que les tarifs des assurances habitation ne sont pas en reste. Un prix moyen 274 euros, c'est en hausse de 12,8% à cause notamment des catastrophes naturelles.
Il est 7h32, il avait sa tête des mauvais jours tout à l'heure Donald Trump quand il a quitté le sommet du G7 au Canada.
Départ en urgence pour pouvoir gérer au plus près le conflit entre Israël et l'Iran.
Je dois rentrer, c'est très important. Vous avez vu probablement comme moi, je dois rentrer aussi vite que possible. J'aurais aimé rester demain, mais ils comprennent qu'il se passe un truc énorme.
Is there a reason, Mr. President, that you can't? Donald Trump qui vient de préciser que son retour anticipé à Washington n'a rien à voir avec un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Il reproche à Emmanuel Macron d'avoir présenté ses intentions de manière erronée. Quelles intentions? On ne sait pas très bien. Le président américain a aussi déclaré sur son réseau social « Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement ». De fait, pour la cinquième nuit consécutive, les missiles volent bas entre les deux pays. En Israël, les sirènes d'alerte ont retenti deux fois ce matin dans plusieurs villes et l'espace aérien est fermé, donc pas moyen de fuir. Écoutez cette Française, elle s'appelle Dorit, elle est bloquée depuis une semaine à Tel Aviv et son hôtel a été bombardé.
Un des missiles s'est écrasé juste à côté de l'hôtel où je suis. Et là, vous vous dites, il faut que je me sauve d'ici, mais je ne peux pas me sauver d'ici parce que l'ambassade de France, on n'a aucune nouvelle, rien du tout. Je ne me voyais pas rester ici 107 ans. Je pars à 6 heures avec un passeur jusqu'à la Jordanie. On est obligé, donc ça coûte de l'argent. 1500 faciles en tout. On va à l'aéroport de Jordanie et on a réservé un vol pour Istanbul qui part à 2 heures du matin. Et ensuite, d'Istanbul, j'espère partir à Paris. J'ai du mal à me dire quand même que tout ça va se terminer. C'est un cauchemar.
Un témoignage recueilli pour RTL par Lise Tavelet. Alors pour l'instant, les États-Unis ne s'impliquent pas. Ils ont même refusé une opération pour éliminer le guide suprême iranien. Mais Benyamin Netanyahou persiste. Tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettra fin au conflit. Voilà ce que dit le Premier ministre israélien. Plusieurs hauts responsables iraniens ont déjà été abattus dans cette opération baptisée Rising Lion. Et c'est le Mossad qui est à la manœuvre. Les services de renseignement israéliens sont profondément infiltrés en Iran, comme l'explique le journaliste d'investigation Vincent Nouzille.
Il y a eu plusieurs couches. Il y a eu d'abord une première couche qui était la pénétration des réseaux des systèmes de communication des états-majors iraniens. Et donc ça, c'est quelque chose qui était en place quasiment depuis 20 ans. Et puis, il y a eu une couche de recrutement de sources à l'intérieur du système. Et puis après, ils ont listé un certain nombre de personnes qu'ils voulaient absolument éliminer pour cibler à la fois des commandants militaires, mais aussi des scientifiques chargés du programme nucléaire.
On recrute parmi l'opposition.
On recrute par l'opposition, mais on peut recruter aussi des gardiens de la révolution eux-mêmes. Ouais. Et donc avec beaucoup d'argent, les Israéliens sont capables de recruter des taux. S'ils se font prendre, c'est extrêmement dangereux.
Le journaliste Vincent Nouzille avec Jérôme Florin dans les petits matins d'RTL. En Ukraine, des frappes aériennes russes sur Kiev ont fait au moins 14 morts cette nuit, dont un Américain. C'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre.
Il est 7h34 sur RTL. Une bonne nouvelle pour un certain nombre d'entre vous. MaPrimeRénov est finalement maintenue pendant l'été.
Oui, alors pas pour tous les travaux, uniquement pour ce qu'on appelle les monogestes, c'est-à-dire des travaux isolés comme la pose d'une chaudière ou de nouvelles fenêtres. Un geste du gouvernement en réponse à la colère du secteur du bâtiment. L'ensemble du dispositif reviendra, lui, en septembre, mais dans une version allégée. On en vient à ce match de foot qui a tourné à la bagarre générale ce week-end près de Toulouse. Match entre gamins de 10 ans, mais ce sont les grands qui se sont battus. Des parents qui contestaient la gestion du match. Bilan, un papa grièvement blessé et cet éducateur qui a été agressé.
Trois parents ont immédiatement envahi le terrain. On m'a jeté au sol. Et une fois au sol, ces trois personnes ont essayé de me lyncher, tout simplement. C'est un déferlement de violence et c'est inacceptable. En tant qu'éducateur, on s'efforce d'apprendre aux enfants le respect de l'arbitre, la discipline. Mais quand on a des parents comme ça qui viennent ternir l'image du football, c'est inacceptable. Les enfants sont dans un état de choc très profond. On attend qu'il y ait un mort, ce qui aurait très bien pu se passer là, ce week-end.
Cet éducateur au micro RTL de Vincent Larquet.
On entendait Donald Trump tout à l'heure évoquer son départ du G7. Eh bien, sachez que ses enfants ont lancé hier le Trump Mobile. C'est quoi le Trump Mobile?
Oui, c'est pas la Trump Mobile, ce serait une voiture. Le Trump Mobile, c'est un téléphone et un abonnement. Une façon de marquer les 10 ans de la première candidature de papa, Arnaud Touche.
Oui, Trump Mobile est aligné sur vos valeurs et fondé sur la fiabilité, la liberté et la fierté américaine. Voilà la promesse du nouvel opérateur téléphonique qui porte le nom du président des États-Unis. Trump Mobile, c'est d'abord un forfait à prix unique, $47.45 par mois. 47 car Donald Trump est actuellement le 47e président des États-Unis, 45 car il était aussi le 45e. Et grâce à ce forfait, les clients américains auront droit à de la 5G et des services comme de la télémédecine ou de l'assistance en voiture. Ils pourront également appeler gratuitement les bases militaires américaines à l'étranger. Eric Trump, lors de la conférence de presse de lancement, a largement insisté sur le côté patriote.
Il y a une clé à cela et c'est l'Amérique. Tous les services à la clientèle seront assurés en Amérique, les téléphones fabriqués aux États-Unis. Il est temps de ramener les produits dans notre grand pays.
Mais Trump Mobile, c'est aussi un téléphone nommé T1, Trump One. Sur les visuels, on peut voir une coque dorée avec un drapeau américain et en fond d'écran le slogan Make America Great Again. Les fils du président promettent qu'il sera fabriqué entièrement aux États-Unis et qu'il coûtera environ 430 euros.
Arnaud Touche, le correspondant d'RTL à New York.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h37 dans un instant sur RTL, L'Angle Écho. Bonjour François Langlais.
Bonjour Amandine.
Dernière réunion du conclave sur les retraites aujourd'hui.
Oui.
Et plus que jamais, vous espérez un accord François.
C'est vrai parce que nous les Français, nous ne travaillons pas assez. Non pas que nous soyons paresseux, c'est pire que ça, je vous explique dans un instant.
Et les retraites, on en parlera avec une des actrices majeures de ce qui se joue en ce moment dans ce fameux conclave. C'est Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Ces lignes rouges ont-elles pâli? Elle nous le dira à 7h40. Et puis, bien sûr, on retrouvera Philippe Cavrivière juste avant 8h. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Ford Pro.
Allez patron, j'y vais.
Attendez.
Oui.
Vous êtes branché, Bénodier.
Ah bon, vous trouvez?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Bénodier.
D'accord, donc c'est nouveau.
Bah, oui.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4 696 € sur le nouveau e-Transit Custom 100% électrique avec la prime CEE.
Ford Pro.
Prime CEE en vigueur pour personnes morales éligibles. Voir conditions d'éligibilité sur Ford.fr.
Moi je suis conseillère funéraire chez Roc Éclair. Je sais ce qui compte le plus pour les familles quand un décès survient. C'est aider à organiser une cérémonie qui soit vraiment à l'image de leurs proches, être très transparent sur les prix avec un devis clair, et bien sûr, respecter le budget. Et prendre en charge le plus contraignant. Tiens, comme d'effectuer à leur place tous les courriers et les formalités après décès. C'est tout ça qu'on garantit chez Roc Éclair.
Roc Éclair, là, pour vous. Dans près de 500 agences en France et au 30-24.
Mon client, quand il a vu qu'il avait une grosse fissure sur son pare-brise, il voulait vite le faire remplacer. Faites comme lui. Un problème avec votre pare-brise? Pensez tout de suite à Carglass. Avec notre plus grand stock de vitrage Carglass d'Europe, votre pare-brise, il est vite envoyé dans le centre que vous avez choisi. Et jusqu'au 20 juin, pour une réparation d'impact ou un remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous tout de suite sur Carglass.fr. N'oubliez pas, c'est seulement chez Carglass.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur Carglass.fr.
RTL Matin.
7h40 sur RTL, L'Angle Écho avec vous François Langlais. Le conclave sur les retraites touche donc à sa fin,
oui.
Dernière réunion, a priori en tout cas aujourd'hui. Et alors pour vous François, il faut un accord? Et pas seulement parce que la population vieillit.
Oui, il y a semble-t-il des chances d'avoir un accord. Or, FO et CGT, bien sûr, mais avec des partenaires sociaux suffisamment représentatifs pour légitimer cet accord. Ça serait un signe que les partenaires se saisissent de l'intérêt national, et on en a un grand besoin, parce que la classe politique ne montre pas toujours beaucoup d'intérêt là-dessus. Et ça serait aussi un premier pas si on allonge la durée moyenne de la carrière pour commencer à résoudre un sérieux problème français.
Et quel est ce sérieux problème français?
Vous savez, quand on parle retraite, on parle toujours démographie, vieillissement de la population, diminution du nombre des actifs qui cotisent. Bon, c'est vrai. Mais c'est pas le seul argument pour allonger la durée de travail de chacun d'entre nous. En France, la quantité de travail fournie n'est pas suffisante pour entretenir notre niveau de vie, notre état-providence et les dépenses de l'État, bien sûr, celles des collectivités locales aussi. Si vous prenez l'ensemble des heures travaillées dans le pays en une année, et que vous la divisez par le nombre d'habitants, quel que soit leur âge, on arrive à 660 heures travaillées par Français. Pour chaque Français, le pays produit donc 660 heures de travail.
Mais en quoi est-ce un problème, François ?
660 heures, bah c'est en gros un tiers de temps.
Ah oui, seulement ?
Eh oui, dit autrement, pour chaque habitant de la France qui travaille, il y en a deux qui ne travaillent pas. Autrement dit encore, un Français qui travaille doit produire suffisamment de richesses pour entretenir deux autres personnes que lui. Chaque actif finance en gros l'éducation d'un jeune et la pension d'un senior. C'est ça qui explique à la fois notre haut niveau d'impôt et notre déficit, parce que la base sur laquelle on prélève, la richesse produite, elle est trop étroite. Par ailleurs, 660 heures, bah, c'est le chiffre le plus faible de l'OCDE. L'Allemagne est aux alentours de 700 heures, le Royaume-Uni 800, les États-Unis à peu près 800 également.
Bon, comment peut-on redresser cela, essayer de se rapprocher de ce que font nos voisins ou les États-Unis ?
Il y a trois leviers. Un, augmenter le temps de travail hebdomadaire ou annuel, en supprimant des jours fériés ou en repassant à 40 heures par semaine. Bon, ça paraît peu probable. Deux, augmenter le nombre de gens qui travaillent. Et notamment les jeunes et les seniors, ça c'est souhaitable. Et puis, dernier levier, augmenter la durée de carrière. C'est peut-être ce sur quoi va déboucher le fameux conclave qui se termine aujourd'hui.
Merci beaucoup François, vous vouliez rajouter une précision sur votre chronique d'hier.
Oui, l'info originelle du transfert du patron de Renault, Luca De Meo, vers la maison de luxe Kering, elle venait du Figaro qu'il a publié dimanche soir. J'ai omis de le préciser, pan sur le bec, comme on dit au canard enchaîné.
Eh bien voilà,
toujours
ça y est,
réglo, ce français.
C'est réparé, merci beaucoup François, il est bientôt 7h43.
RTL Matin.
Et tout de suite, on va continuer à parler retraite avec votre invité Thomas. Vous recevez Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT.
Bonjour et bienvenue sur RTL, Marie-Lise Léon. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, aimait dire Jacques Chirac. Alors, la fin de ce conclave approche, il va en sortir quoi ? À l'instant, François Langlais disait, il y a de vraies chances d'avoir un accord. Vous êtes d'accord avec ça ?
On est toujours en négociation. Là, on a une journée de discussion aujourd'hui, donc ça fait partie des objectifs de la CFDT. Il faut qu'on puisse avoir un accord, c'est extrêmement important. On a eu deux séances de négociation la semaine dernière, ça n'a pas avancé tel que nous on l'aurait souhaité, notamment sur la question de la pénibilité, c'est l'enjeu majeur de cette journée. On a des propositions concrètes qui commence à se concrétiser, enfin en tout cas le patronat est plutôt en phase avec ce qu'on propose sur la question des carrières des femmes. Et la question de aujourd'hui, c'est pas pourquoi il faut aboutir, c'est pour qui ? Pour qui on veut obtenir des avancées concrètes ?
Très concrètement.
Pour la CFDT, c'est pour les femmes. Les femmes aujourd'hui, avec le report de l'âge légal, elles sont pénalisées dans la reconnaissance de leur maternité qui pèse sur leur carrière professionnelle. Et donc ça pèse sur leur retraite. C'est profondément injuste. J'avais encore une militante qui me disait hier, elle est dans la fonction publique, elle a suivi son mari dans plusieurs déplacements puisqu'il a été muté, elle a une carrière très hachée et elle paye plein pot, elle a 2 ans de plus à travailler et il n'y a aucune reconnaissance du fait qu'elle ait été pénalisée pendant ses maternités. Donc ça, concrètement, on peut le traiter.
Sur les carrières des femmes et sur la pénibilité, on n'y est pas ce matin.
Pour les femmes, on avance. Sur la pénibilité, c'est le blocage. Le patronat ne veut pas reconnaître qu'il y a des métiers pénibles qui nécessitent des départs anticipés. Ça fait des mois que nous le proposons. On a mis une proposition il y a 2 mois sur la table qui est simple, qui n'est pas une usine à gaz, qui permet une reconnaissance simple des métiers comme les aides-soignantes, les ouvriers du bâtiment, les personnes qui travaillent en logistique, qui ont du port de charges lourdes, etc. Donc là, nous, je dirais, la balle est dans le camp du patronat. Si aujourd'hui, ils veulent un accord, ils prennent notre proposition.
Sinon, il n'y aura pas d'accord.
Avec la CFDT, c'est clair et net. C'est clair et net parce qu'on a toujours dit, nous, on a 3 sujets qu'on veut voir traités. La question des femmes, la question des métiers pénibles et l'âge. Aujourd'hui, on a traité la première question. La deuxième, c'est la pénibilité. Et on est bloqué à ce stade. Donc, la balle est dans le camp des organisations patronales. Et du MEDEF notamment, puisque la CPME a fait des ouvertures.
L'âge, ça va rester à 64
ans. On traite d'abord la question de la pénibilité. Pourquoi ? Parce que si on obtient des départs anticipés, ça veut dire qu'on détricote les 64 ans, l'âge légal n'a plus de sens, et on va vers la retraite à la carte telle que nous, on la porte depuis des années. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on souhaite d'abord traiter cette question de la pénibilité.
Bon, ça dit, sur l'âge légal, vous entendez déjà la petite musique pour la suite. Hier, Eric Woerth était sur RTL et il disait « Reculer l'âge de départ à 65 ans est terriblement impopulaire, mais nécessaire. »
Oui, mais ça, c'est exactement les postures politiciennes de personnes qui considèrent que la question des retraites, c'est une question financière uniquement, budgétaire et tableur Excel. Pour la CFDT, les retraites, c'est une question politique, c'est une question de dignité au travail et de reconnaissance des carrières professionnelles.
Et vous avez des garanties
donc
qu'il
faut
ce conclave, il n'y aura pas dans 6 mois, 1 an, 2 ans, un nouvel allongement et
Non, mais j'ai aucune garantie, c'est pour ça que je ne veux pas aujourd'hui.
Ou pas dans le papier.
On est dans une... Vous savez, les retraites, tant qu'elles seront tributaires de responsables politiques qui pensent que faire campagne en promettant du sang et des larmes, tant qu'on sera dans cette logique-là, on ne traitera pas les vraies questions, les vraies questions du travail, de l'exposition de la pénibilité, le fait qu'il y ait des carrières hachées, que les femmes notamment Vous connaissez l'écart de pension entre les hommes et les femmes. C'est le reflet de leur carrière professionnelle. Les femmes, elles gagnent 40% de moins en étant à la retraite que les hommes. C'est ça qu'il faut traiter. C'est pas d'expliquer que je vais être populaire avec une mesure politique en expliquant qu'il faut travailler jusqu'à 65 Marie et 66. Et je précise que la CFDT, elle travaille bien entendu sur des propositions financées. La question de l'équilibre budgétaire, elle est extrêmement importante.
Vous êtes déjà venu plusieurs fois depuis le début de ce conclave ici. C'est la première fois que je vous vois aussi remonter. J'ai pas le sentiment qu'on soit vraiment à quelques heures d'un accord.
Ah bah c'est probablement l'adrénaline de la dernière ligne droite, c'est le money time. Et moi, je pense qu'il faut qu'on ait un accord. C'est important. Pour les personnes que je représente, on a une journée pour négocier. Donc après, moi, je suis tranquille. Vous savez, toutes les propositions possibles, la CFDT, elle les a faites. La CFDT, elle est restée dans le conclave jusqu'au bout, malgré toutes les pots de banane qu'on a pu nous mettre sur la route. Donc, je suis sereine et je suis motivée et extrêmement stimulée par l'idée qu'il faut pouvoir avoir des réponses concrètes. Donc, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut pouvoir aboutir. Certains responsables nous ont dit, peut-être que si vous avez besoin de plus de temps, on n'a pas besoin de plus de temps. Il faut que ça se termine ce soir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas jouer les prolongations pour se faire plaisir et continuer d'avoir des avancées possibles à telle ou telle condition. La CFDT, elle est claire, elle a fait ses propositions. Maintenant, il faut que le MEDEF y réponde. Et si ils veulent mettre en pratique des déclarations de responsabilité, ils s'engagent dans un accord.
Autre point, on va essayer de ne pas être trop technique, mais quand même, il semblerait que le MEDEF ne soit pas complètement contre abaisser l'âge d'annulation de la décote. En gros, aujourd'hui, pour partir à taux plein, c'est 67 ans. Est-ce que ça va passer à 66 ans? Est-ce que là-dessus, il y a un accord 66
là-dessus, ans pour tout le monde. Nous, ça fait partie des pistes qu'on a travaillées. Il y a d'autres organisations syndicales, notamment la CFTC, qui le portent depuis longtemps. C'est une mesure qui permettrait effectivement à notamment des femmes qui ont eu des carrières extrêmement interrompues, qui aujourd'hui doivent attendre 67 ans pour avoir une retraite à taux plein, là on leur ferait gagner un an.
Mais là ça serait pour
c'est
tout le monde
négligeable.
Ou pas pour hommes et femmes.
Évidemment,
mais et c'est sur la
les
table.
Principales, c'est ce que nous on a mis effectivement sur la table, on
mais
a rejoint.
Je ne doute pas que vous soyez d'accord avec vous-même, mais
oui.
Le patronat il vous dit quoi?
Ça c'est vous savez à ce stade, on a fait beaucoup de propositions, ils nous ont surtout expliqué ce qu'ils ne voulaient pas. Ils n'ont pas beaucoup avancé sur ce qu'ils étaient prêts.
Il n'y a pas de garantie ce matin.
Donc il n'y a pas de garantie, ça reste ouvert et c'est un sujet sur lequel la CFDT se battra aussi.
Et c'est aussi un point bloquant comme la pénibilité?
Il nous faut une mesure sur. On a toujours dit qu'il fallait une mesure sur l'âge. Donc à un moment, je ne sais pas s'il faut que je le dise en anglais ou en allemand, mais ça fait partie des trois points. La question des femmes, la question des situations des femmes pénalisées par la réforme de 2023, la reconnaissance des métiers pénibles et la question de l'âge. Je ne peux pas être plus claire.
Ça me paraît clair. Hier, François Bayrou, le Premier ministre, a proposé une prime pour maintenir les seniors en emploi quand ils ont atteint le taux plein, donc après les 64 ans. En gros, ils toucheraient une partie de leur retraite en plus de leur salaire. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est quoi le principe de cette prime exactement?
C'est une prime qui permettrait d'encourager des personnes en fin de carrière à aller au-delà de l'âge auquel ils peuvent
liquider leur retraite,
ouvrir les droits à la retraite pour les encourager à aller au-delà. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais je suis pas sûre que ça soit le problème du régime des retraites, en fait. Encourager des personnes qui aiment leur travail, qui se sentent en capacité de pouvoir aller largement au-delà de l'âge d'ouverture de leurs droits. Je suis plus inquiète pour les seniors qui ont entre 58 et 62 ans, qui trouvent pas de boulot. C'est ça le.
Donc c'est pas mal, mais c'est hors sujet.
Donc ça arrive un peu tard. Deux, c'est pas chiffré. Je suis assez sceptique sur le fait que ça soit une solution qui puisse être reprise, surtout si c'est aujourd'hui qu'on termine. Et je pense qu'il faut qu'on termine aujourd'hui.
Nous, on n'a pas d'infos là-dessus, mais j'imagine que François Bayrou vous a expliqué ce qu'il voulait faire précisément avant de l'annoncer comme ça. Non, ça va être quoi? Comment ça va fonctionner?
Ah, j'ai pas plus d'informations que vous, hein. Non, ça a été juste, on l'a évoqué. Il l'a annoncé dans la presse hier, on n'a pas plus d'éléments que ça à ce stade.
Mais c'est différent du cumul emploi-retraite qui existe déjà aujourd'hui, on est d'accord?
C'est différent du cumul, je crois, ce que j'ai compris du dispositif. Bon. Ça nécessite d'être instruit. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, ça arrive tardivement, c'est que quand on fait les choses sérieusement comme on le fait depuis trois mois dans le cadre du conclave, c'est que chaque proposition, on fait des propositions de financement et on sait dans quel équilibre global ça s'inscrit.
Maryse Léon, vous êtes à la tête d'un syndicat de la CFDT qui est un syndicat réformateur, qui aime discuter, qui aime essayer de négocier, d'avancer. Mais quand même, vous n'avez pas l'impression d'avaler beaucoup de couleuvres. Pourquoi vous vous battez à ce point alors que d'autres ont dit bah non, on s'en va, l'UDP.
Mais quelle couleuvre ? Quelle couleuvre j'avale ? Enfin, je vous dis, effectivement, on nous a mis des pots de banane sur la route, mais bon, ça fait partie, je dirais, des habitudes de ceux qui veulent vraiment. Qui veulent que les choses n'avancent pas.
Pourquoi vous renoncez ? Pourquoi vous n'avez pas dit un moment comme les autres ? Bon, ça va.
Parce que moi, je représente des milliers de personnes. J'ai 640 000 adhérents, adhérentes qui adhèrent à la CFDT parce que c'est ça notre marque de fabrique. C'est de toujours défendre notre beefsteak jusqu'au bout pour obtenir des choses extrêmement concrètes. Moi, je suis pas dans les slogans ou les postures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes dont je vous parle, les ceux que je rencontre, les personnes qui travaillent dans l'industrie, qui travaillent dans l'aide à domicile, dans les EHPAD, et qui tous les jours, ils me disent « Mais Marie-Lise, fais quelque chose pour nous. On a besoin de se sortir de notre situation et par la discussion et par le compromis, on peut en obtenir. » Donc moi, ça me suffit. Et ce que pensent les autres et ce qu'ils ont, le regard qu'ils peuvent avoir sur mon syndicalisme, j'en ai pas grand-chose à faire.
Bon, j'ai l'impression que votre journée va être longue. Marie-Lise Léon, restez avec nous. On va vous détendre un peu avec Philippe Cavrivière.
Merci.
Et après, vous pouvez retourner au conclave. À tout de suite.
RTL Matin.
Pour donner aux parents plus de contrôle sur les applications que leurs ados téléchargent, Instagram demande une réglementation européenne. Cette réglementation exigerait la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store. Plus d'infos sur instagram.com/accordparental.
Gulli, c'est sur la 12.
Tous ensemble.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Du croustillant ?
Ah oui, en ce moment, les 4 baguettes croustilles dont une offerte sont à 2,85€.
72 centimes la baguette ! C'est une bouchée de pain ?
Bah on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. 250 grammes, 2,85€ le kilo pour 4 baguettes, 3,80€ le kilo pour une baguette. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour Philippe.
Et bonjour.
La secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui était l'invité de Thomas à l'instant, et bien sûr, restez pour votre chronique.
Ah, Mireille Mathieu, tu nous manques.
Oh, mais non.
Foutu fentanyl et surtout foutu chemsex. Pourquoi mourir sur scène ? Eh bien parce que pour le plus grand malheur du MEDEF, les métiers manuels, les soudeurs, les maçons, les conducteurs d'engins, curieusement, ne chantent pas tous les jours au boulot « Moi, je veux mourir sur scène ». C'est la grosse différence entre Dalida et le gars du marteau-piqueur, si on exclut, bien sûr, la robe à paillettes. Et s'il a envie de marteau-piquer en talons aiguilles et robe à paillettes, il a parfaitement le droit. Et bonjour Marie-Lise, elle était trop longue cette intro. Vous êtes là pour votre visite mensuelle. Hier, vous avez écouté évidemment hier, nous recevions Jordan Bardella, un homme de droite, bien bien de droite même. Et aujourd'hui, on vous accueille Marie-Lise, une femme plutôt de gauche, donc un homme droite brun hier, une femme de gauche blonde. Demain, dans un souci d'éclectisme, nous recevrons un centriste transsexuel roux ou au burn la couleur, pas l'endroit. Il faut chercher le maintenant, hein, parce que...
Au burn. Philippe, on s'avance donc vers la fin du conclave, d'autant que Marie-Lise Léon a dit que tout à l'heure elle ne voulait pas jouer les prolongations, ça doit donc se terminer aujourd'hui.
Là, ça va se terminer là. François Bayrou a trouvé cette idée du conclave génial, c'est normal, c'est un peu la sienne. Il me fait penser à ces chanteurs, vous savez, qui, en saluant le public, se baissent et lancent discretos une autre. Et en général, ça se propage au premier rang. Et j'en crois qu'il y a une bonne ambiance. Alors, je vais être franc. Pour moi, comme pour beaucoup de Français, le conclave sur les retraites, c'est un peu comme Marthe Villalonga et Popek. De temps en temps, les médias en parlent et à chaque fois, on fait... Dis donc, j'étais persuadé qu'ils étaient morts. Et en fait, non. C'est une bonne nouvelle, tu vois, en fait. Cela dit, les partenaires sociaux ont fait un vrai travail. Et quelque part, hier, ils ont planché sur la philo, comme sur plein de sujets, voilà. Des sujets comme notre retraite est-elle illusoire ? Vaut-il mieux travailler pour vivre ou vivre pour travailler ? ou encore la retraite à 66 ans et demi. Ça va, pas trop mal au yonf. Et là, vous avez reconnu Spinoza, bien sûr, la célèbre citation. Et c'est vrai que 66 ans et demi, c'est mignon comme proposition. Ouais. Ça fait comme les enfants qui disent, moi j'ai 5 ans et demi. Et ben là, ils veulent faire pareil.
Bon, Philippe, vous vous êtes penché sur le détail de ces discussions. Est-ce que le MEDEF et son président Patrick Martin se sont montrés ouverts? Est-ce qu'ils ont fait des concessions?
Oui, alors... Très sympa, Patoche. On l'a reçu plusieurs fois. La direction de RTL l'adore. Et puis, non, mais il est ouvert au dialogue. Quand les syndicats lui ont demandé de pouvoir partir plus tôt à la retraite, il a dit « Banco, la dernière journée, au lieu de quitter à 18h, ils pourront partir à 16h30. » Vanne de droite. On lui a dit « Ne te fous pas de notre gueule, Patrick, c'est sérieux. Hein. » Alors, cela dit, la théorie du MEDEF est intéressante. Plus tard, on vous fait partir à la retraite. Moins longtemps, vous aurez à vous plaindre de vos petites retraites. Ouais. Tu vois, coincés entre le début de la retraite et la fin de vie, elles vont pas être belles ces deux années. Pour peu qu'on n'ait pas un cancer du pancréas, on va pas kiffer. Alors, tiens, d'ailleurs, comment être en bonne santé à la retraite? Je devance Jimmy Mohamed. Eh bien, en ne foutant pas grand-chose dans sa vie professionnelle, regardez-moi. Physique de rêve, l'œil rieur du couillon satisfait. Mon secret? La glandouille. Des années à bosser 5 minutes par jour dans un studio climatisé de Neuilly. Regardez, on est en pleine forme. On a des métiers faciles, on a des métiers... Je ne me compare pas une seconde, mais c'est vrai qu'on est un peu dans la même lignée, Philippe Labro et moi. Bossé jusqu'à 88 ans. Ouais. Parce que passionné, voilà. Et c'est Alex Vizorek qui lui a rendu le plus bel hommage avec ses mots. Il m'a dit, vivre à son époque, ne pas avoir un seul MeToo, jamais une bifle, jamais une olive. Il a dit, chapeau Labro. Voilà. Est-ce que c'est pas la
citation apocryphe, évidemment, comme une nouvelle fois avec vous.
C'est pas la plus belle chose à retenir.
On va revenir à Marie-Lise Léon,
si vous voulez.
La CFDT qui pourrait accepter le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans en échange d'avancées du patronat sur la pénibilité.
Pénibilité, voilà. Vous venez de passer des semaines avec Bayrou et Patrick Martin du MEDEF, ce qui vous donne une vraie légitimité pour parler pénibilité. Vous savez que si vous appliquez les barèmes de pénibilité par rapport aux semaines que vous venez de vivre, Marie-Lise, vous pourriez solliciter une retraite à 26 ans. Dès que vous avez 26, barrez-vous. Marie-Lise, vous vouliez que des métiers pénibles puissent partir plus tôt. Et quand on parle des métiers pénibles, je ne parle pas des huissiers, des opérateurs téléphoniques qui t'appellent 8 fois par jour pour répondre à une enquête sur les Thermomix, les représentants d'assaut qui t'accostent dans la rue pour te demander 8 euros par mois pour lutter contre le sida alors que tu n'as pas touché une femme depuis 20 ans, ni autre métier pénible, les accordéonistes du métro qui jouent El Condor. Pas ça. Ça, c'est pénible. 7h du mat, ligne, ils sont très pénibles. Au QTF, Rotaillou, allez hop là. Cela dit, il y a des vrais...
Station Montparnasse, hein. On les reconnaît, ouais, station Montparnasse.
C'est Montparnasse, on les embrasse. Cela dit, il y a des vraies avancées, des efforts de fait par le patronat, des petits efforts sur les mères de famille, des efforts pour les métiers pénibles, on l'a dit, sur les vibrations comme le marteau-piqueur, puis il y a des efforts aussi, j'ai lu dans l'article, pour les personnes en situation de handicap. Et si t'es une femme enceinte qui fait du marteau-piqueur et coup de bol, t'es unijambiste, là c'est jackpot.
Vous devriez aller participer à la dernière journée de conclave avec Marie-Lise.
Je file en conclave, allez.